France Culture.
Question d'islam par Ghalib Bensir. Aujourd'hui, nous parlons de maîtrise du champ sémantique, de précision de ce qui concerne le contour épistémologique de ce que nous disons, voire ce que d'aucuns appellent une violence épistémique, avec Shahed El Nawaf Taha. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation et de venir nous parler, vous qui êtes juriste, conseiller à l'UNESCO, de ces sujets cruciaux, importants, quand il y a des crises et l'islam, soit avec sa majuscule qui renvoie à la civilisation, soit avec sa minuscule, même si pour certains, du point de vue spirituel, la question ne se pose pas, mais moi je la pose, serait, en tout cas la tradition religieuse islamique est ou serait en crise. Et donc pour pouvoir sortir par le haut d'une crise qui a assez duré, il faut au moins savoir de quoi on parle, de maîtriser le champ sémantique et peut-être de faire pièce à cette violence épistémique que vous-même, Shahed El Nawaf Taha, mettez en avant dans les débats actuels, tant en France que de par le monde, avec des oppositions qui sont érigées comme ça à l'emporte-pièce et qui ne résistent pas à l'analyse, pour peu qu'elles soient un peu objectives, rationnelles et qui fassent appel à l'intelligence.
Je m'intéresse au concept, au débat public et à ces ateliers sémantiques, on va dire, comment les concepts se construisent et comment on approche une ère géographique, une civilisation, une culture à travers ces mots. J'ai travaillé comme juriste et j'étais parfois amené à utiliser plusieurs langues. Il m'est arrivé dans le monde arabe, c'est dans mon expérience en tant que juriste dans le Golfe, au Moyen-Orient. Nous avions une discussion à propos de la question des sanctions internationales et en discutant avec mon employeur, j'ai utilisé, tout en parlant en arabe, j'ai utilisé le mot islamisme. Et mon interlocuteur m'a regardé en me disant, c'est quoi islamisme? Et là, toute une réflexion née, je me suis dit, en fait, j'étais au Moyen-Orient, en Orient, en terre d'islam, et j'ai changé en langue arabe en utilisant finalement un concept exogène à cette ère, mais qui, ailleurs, en fait, est aujourd'hui un concept presque indiscuté.
Et donc, non seulement c'est un concept indiscuté, mais qui renvoie à l'horreur, à l'épouvante, à l'archaïsme, à ce qui est rétrograde, à la terreur, au terrorisme.
Exactement. Moi, en suivant une fois une discussion sur Anna Arendt, j'ai entendu ce concept de combat. Et je crois que l'islamisme, c'est un concept de combat, c'est-à-dire qu'on l'utilise non pas comme un outil d'analyse pour comprendre ou pour mettre dans une catégorie, mais c'est pour évincer ou délégitimer un interlocuteur.
Peu recommandable.
Récalcitrant.
Quoi, au débat, à l'analyse, à l'échange?
Oui, au monde civilisé, entre guillemets.
Rétif et réfractaire à tout ce qui relève des avancées modernistes et du progrès.
Oui, anti-moderne. Il y a tellement de mots, étonnamment d'adjectifs. Mais la réflexion, il en a, et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ce concept d'islamisme. Essayer de comprendre tout simplement d'où vient-il, sa généalogie. Et on apprend et on comprend que avant 1979, c'était l'équivalent du mot islam, et on l'utilisait.
C'est même jusqu'en 1992.
92, c'est ce que vous m'avez dit.
Quelques fulgurances. Roger Caractini, l'encyclopédiste, a écrit un ouvrage intitulé « Le génie de l'islamisme », faisant pendant au génie du christianisme de Chateaubriand.
Exactement. Moi, j'avais rencontré Paul Bolta, qui avait écrit sur ce sujet-là, le regretté Paul Bolta, et j'ai essayé, en échangeant avec lui, j'ai essayé de comprendre vraiment pourquoi ils ont choisi de donner une nouvelle coloration, un nouveau sens à ce mot. Il me disait, en fait, en 1979, nous avons été surpris par cette révolution en Iran, et nous voulions distinguer le bon islam du mauvais islam, et nous avons pensé que c'était la meilleure manière, en fait, de rendre les choses un peu claires à l'audience et aux lecteurs et dans le débat public. Et donc, nous avons donné une nouvelle signification à l'islamisme. Ça serait vraiment la dérive, l'utilisation politique d'une religion à des fins idéologiques.
Et à ce sujet, l'idéal eût été de qualifier l'islamisme, un peu comme l'a fait Bruno Etienne dans son ouvrage « L'islamisme radical ». C'est-à-dire qu'il lui faut une épithète. Parce que, et j'ai lu un de vos articles dans lequel il y a juste raison, si tant est qu'il me soit permis de cautionner votre travail, que l'islamisme, jusqu'au XIXe siècle, désignait la tradition religieuse islamique, comme le judaïsme ou le christianisme.
D'ailleurs, c'était pas très clair, parce que j'ai trouvé chez Nietzsche l'utilisation, par exemple, du mot wahhabisme pour parler de l'islam. Parce que je pense que pour l'écrivain ou l'intellectuel en Europe, les choses n'étaient pas encore très précises. On redécouvrait une ère culturelle. Mais ce dont je me suis... En suivant les débats en France, je voyais que l'islamisme, c'est devenu un peu un concept catch-all, diraient les anglo-saxons, attrape-tout. Et quand on regarde qui sont vraiment les islamistes, ben, on a un État comme la Turquie qui est membre de l'OTAN, avec des partis politiques qui, à un moment, étaient au pouvoir, maintenant, ils ont été évincés, puis il y avait Daesh.
Au Maroc, en Jordanie, en Tunisie. C'est-à-dire que la gamme va de Recep Tayyip Erdogan, dont on a envie d'avoir quelques grâces pour accepter de voter comme on veut lorsqu'il siège à l'OTAN, et ça va crescendo ou décrescendo jusqu'à Daesh et sa monstruosité idéologique et religieuse.
Exactement, une organisation terroriste et originaire de Mossoul, je sais quelles sont les conséquences. Mais donc je trouvais ça pas sérieux. Et là, je me rappelais un peu des lectures que j'ai eues très jeune, d'abord en découvrant l'orientalisme, et puis avec l'œuvre de Edward Said, Covering Islam. Et je trouve que nous sommes encore dans les travers, les biais qu'on peut avoir lorsqu'on veut comprendre ce qu'on appelle parfois le monde musulman, le monde arabe ou l'Orient, et parfois malheureusement c'est mélangé, c'est que derrière ce qui...
Là, avec ce qui se passe avec les mollahs d'Iran, on fait venir quelques politistes et on les présente comme spécialistes du monde arabe.
Exactement.
Pour nous parler de ce qui se passe chez les Perses.
Chez les Perses, exactement. Il y a un vernis scientifique, ça paraît être rationnel et scientifique, mais lorsqu'on approfondit un peu les choses, on se rend compte que c'est toujours les mêmes façons de faire et de voir le monde arabe ou le monde musulman. On classifie, on objective pour mettre à l'écart, pour marginaliser. C'est pour ça que je parle de violence épistémique. Nous ne sommes pas dans une volonté de comprendre ou d'analyser des phénomènes. Il s'agit, je pense, d'avoir toujours une approche confrontationnelle avec le monde musulman.
Pour revenir à au glissement entre islam et islamisme, alors d'aucuns, même bien intentionnés, disant non, vous savez, il ne s'agit pas d'islam, il s'agit d'islamisme. L'islam, ce sont des gens plutôt bien. En revanche, je parle des musulmans, mais les islamistes, nous les en avons en horreur. Mais tant qu'on ne les a pas encore définis, et moi je me rappelle d'une convention qui a réuni, selon ses organisateurs, 4000 personnes au Dôme de Paris, il y a de cela à peu près un an, en présence du ministre de l'Intérieur d'alors. C'est pour combattre l'islamisme, mais ce dont on avait parlé, en gros, c'était... l'islam, y compris de certaines dérives de l'islam, ou une approche conservatrice de la pratique religieuse islamique, mais on n'avait pas parlé d'islamisme.
Oui, pour reprendre Edward Said, c'est souvent l'expression d'une... C'est le moment où on exprime une antipathie culturelle vis-à-vis de ce qui ne serait pas nous, de ce que serait l'autre barbare.
L'autre qui n'est pas moi est moins que moi.
Exactement. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être on veut essayer de maîtriser une panique morale. C'est peut-être l'idée aussi du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions internes et on essaye d'en échapper en pointant du doigt un acteur qui serait un peu la cause de tous les problèmes. Mais dans le concept d'islamisme, ce dont je me suis rendu compte d'abord, c'est que dans le débat dans le monde arabe, il n'y avait pas d'équivalent à ce moment-là. Aujourd'hui, on utilise le mot « islamouïa », mais je pense que la personne vivant dans le monde arabe, la personne arabophone qui écoute le débat, il ne comprend pas de quoi on parle. Puisque dans le monde arabe, lorsqu'on veut nommer ces acteurs extrémistes, on va parler de tatarruf, d'extrémisme, on va les nommer par leur nom en tant que parti, je ne sais pas moi, les frères musulmans, ou le parti salafiste, ou je ne sais quoi. Mais il n'y avait aucune transposition de ce concept-là en langue arabe. Et donc, la première chose que je me suis dit, d'abord, c'est que, en reprenant cette conversation avec mon interlocuteur, c'est que de quoi on parle ? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce concept pose problème dans, je pense, la compréhension entre deux mondes. Puisque on ne sait pas de quoi on parle, et ça alimente une tension qui est regrettable. Et ce n'est pas ce que nous voulons.
Il y a peut-être deux choses, Shahed El Nawaftaqa. La première, c'est que vous avez évoqué Paul Balta, paix à son âme. C'est pour pouvoir distinguer l'islam comme religion et tradition et les dérives de ce que peuvent commettre des musulmans. Et là, il y a cette création de l'islamisme, un peu comme l'idée que le suffixe étouffe la racine. L'écologisme et l'écologie, l'autoritarisme et l'autorité, le marxisme et Marx, etc. Et il y a aussi le second point, c'est que, y compris chez certains partis dits islamistes maintenant, par exemple le deuxième guide des frères musulmans aurait évoqué le fait de dire « Nahnu islamawiyoun ».
Exactement.
Ou même dans certains partis dits islamistes, on dit « ça ne nous suffit plus d'être musulmans, muslimoun, nahnu islamouyoun ». Et ce serait peut-être la transposition d'islamisme en langue arabe.
Exactement, c'est ce que je citais dans mon article paru dans l'Opinion. C'est que donc il y aurait cette histoire qui serait un peu plus exogène et donc explique l'origine du mot. Mais le problème, encore une fois, c'est l'identification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le débat public en France, moi, je serais vraiment intéressé pour savoir est-ce que le salafisme est intégré dans le concept d'islamisme. Et là, je pense que beaucoup de gens ne sauraient même pas distinguer le salafisme de l'islamisme. Sachant qu'il y a beaucoup de députés, d'acteurs, d'intellectuels qui vont interagir avec des États pour lutter contre les frères musulmans, alors que ces mêmes États arabes ont pour doctrine le salafisme. Et donc tout ça, c'est pas très clair. Je pense que beaucoup d'hommes politiques utilisent ce concept pour échapper à une condamnation tout simplement juridique. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on peut plus être raciste, et donc on invente ce concept attrape-tout pour invoquer les préjugés et les stéréotypes vis-à-vis du monde musulman, tout en se défendant en fait d'être raciste de ce point de vue-là. Ou xénophobe.
C'est-à-dire qu'on part toujours de l'idée que l'islamité est incongrue, étrangère et adventice par rapport, si on reste en France, à la nation française.
Exactement, et c'est à ce moment-là que je répondais aussi dans un autre article à un écrivain qui prétendait que donc, le monde musulman, l'islam, les musulmans, leurs valeurs seraient incompatibles avec la République. Je lui ai rappelé que tout ça, ce n'était pas nouveau, puisqu'il y a toute une tradition orientaliste qui, depuis l'Antiquité, s'est construite contre l'Orient. Et je disais, malheureusement, en fait, les chiffres disent le contraire. Aussi bien à l'armée que dans l'éducation, la présence aujourd'hui de musulmans est là, est claire. Et même lorsqu'il y a des attentats terroristes faits par des djihadistes, ceux qui meurent les premiers, ce sont souvent des musulmans. Et donc ce débat, en fait, il est souvent irrationnel et sans base scientifique. Il est là pour, je pense, invoquer encore une fois des peurs et des fantasmes.
C'est-à-dire que des jeunes gens issus, comme on dit souvent, d'un même terreau, il y en a davantage qui vont défendre la nation en intégrant les forces de défense nationale que ceux qui sont allés au temps fort de ce qui se passait en Syrie et en via la Turquie.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le ministère des Armées, nous avons des chiffres. Donc nous pouvons évaluer cela. Il y avait quand même 10% des membres de l'armée qui étaient de confession musulmane. C'est des gens qu'on n'a pas obligés à se dire musulmans. C'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes
déclarés
ou en tout cas...
Selon l'aumônerie musulmane aux armées.
Qui sont musulmans. Mais le problème, c'est que dans la polarisation actuelle médiatique, ce type de discours marche. Et le nôtre, celui qui est perçu comme modéré, mais en fait c'est presque radical aujourd'hui de dire et de affirmer que la culture musulmane est compatible avec la culture occidentale ou européenne, puisqu'il y a toute une vague qui est devant vous qui dit le contraire, ou qui pense le contraire.
Alors il y a toute une réflexion sur la culture. Y a-t-il une culture musulmane au singulier ?
Des cultures musulmanes, oui.
Parce que la culture indonésienne n'est pas la culture sénégalaise. Et l'Indonésie, le Sénégal appartiennent à ce qu'on appelle le monde musulman. Et j'ai cru comprendre que l'appellation monde musulman ne date qu'après l'inauguration du canal de Suez et les histoires de Ferdinand de Lesseps. L'archéologie, au sens foucauldien du terme, au sens de Foucault, du mot, n'existait pas, paraît-il, avant la fin du XIXe siècle, du monde musulman, j'entends. Et puis, ce que vous dites, cher Shadil Nawaftaka, c'est que moi, je me rappelle, lors de cette grande manifestation Place de la République, après les attentats odieux, contre la rédaction de Charlie Hebdo et l'hypercachère, il y avait ceux qui s'écriaient « Mais où sont les musulmans ?» Et il y avait cette double injonction contradictoire. D'un côté, on leur demandait de se fondre d'une manière caméléonesque au sein de la nation et que rien ne doive les spécifier, les singulariser, les déterminer, tout en leur demandant de se manifester cette fois-ci et de manifester comme musulmans. Et pourtant, ils étaient présents, place de la République, et avec les mêmes proportions de 10%.
C'est le problème avec même les accusations. Soit vous êtes séparatiste, soit vous êtes entriste. Mais vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Encore une fois, je reviens sur les études d'Edouard Saïd. C'est tout le problème avec l'acception du monde musulman. En fait, on est chaque fois dans un souci de domination et de confrontation, et non pas de compréhension. C'est pour ça qu'il appelle un savoir antithétique, détaché de cette volonté confrontationnelle. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, nous sommes très loin de tout ça.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec le juriste Shadil Nawaftaka, nous parlons, le mot est peut-être fort, de violence épistémique, de non-maîtrise du champ sémantique et de vouloir mettre un peu d'ordre dans le fatras idéal. Shadil Nawaftaka est juriste, conseiller à l'UNESCO, auteur de nombreux ouvrages et articles. Et pour cette deuxième partie de l'entretien, auquel vous répondez volontiers, cher Shadil Nawaftaka, c'est quoi l'idée chez Edouard Saïd avec le savoir antithétique ? C'est-à-dire qu'il faut mettre tout à plat et essayer de comprendre ce dont on parle et sortir d'une confrontation. Les acteurs sociaux et notamment certains politistes, certains intervenants sur les plateformes télévisées et surtout maintenant sur les réseaux asociaux pour certains, sociaux pour d'autres, il faut bien qu'on sache de quoi on parle au juste.
Je pense qu'il faut être conscient, et c'est la leçon d'Edward Said, qu'il y a une affiliation entre savoir et pouvoir, et que malheureusement, la production du savoir vis-à-vis de l'Orient a toujours été travaillée par un souci politique, c'est de vouloir maîtriser, neutraliser cet Orient qui serait perçu comme une menace. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Et le problème, c'est que lorsqu'on ne met pas de limites au concept, lorsqu'on n'identifie pas, on arrive à des situations rocambolesques. Nous avons un chercheur très connu, Hakim Al-Karoui, qui a produit beaucoup de choses sur l'islamisme. Et lorsqu'il arrive devant une commission de sénateurs, il doit quand même se justifier pourquoi il n'est pas islamiste. On parle de quand même quelqu'un qui a travaillé à l'Institut Montaigne, qui a été fonctionnaire. Et c'est le problème avec...
Qui était même conseiller du Premier ministre.
Qui était conseiller du Premier ministre, qui la presse l'appelle le monsieur islam du président de la République. On est quelqu'un de très identifié. Et le problème avec ces concepts-là, c'est qu'on est dans un sorte de, je sais pas, de chantage ou de tension permanente, d'accusation permanente, de doute permanent. Et je crois que c'est encore une fois le problème de l'orientalisme en général. Il y a une volonté de dominer quelque chose qui serait perçu comme, par essence,
oui, mais
menaçant.
Puisque vous et moi sommes en train d'essayer, en tout cas je le dis pour moi, de déconstruire ces choses-là, je ne suis pas sûr qu'il faille mettre l'islam et l'Orient comme superposables. Puisque de deux choses l'une, ou cette tradition religieuse, tout comme le monothéisme judéo-islamo-chrétien, le monothéisme abrahamique, est une société savante méditerranéenne, occidentale, comme le dit l'école pratique des hautes études, par rapport aux traditions religieuses d'Extrême-Orient, ou, si on dit que l'origine est orientale, ça l'est aussi pour le judaïsme et le christianisme.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qui est intéressant dans l'atelier sémantique médiatique, c'est que tout ça, c'est devenu l'équivalent. C'est-à-dire que le monde arabe serait en même temps le monde musulman, qui serait en même temps l'Orient. Et le problème, c'est que lorsque vous avez une crise...
C'est-à-dire que le Maroc est un Orient pour l'Autriche.
Exactement, exactement, tout à fait. Et lorsque vous avez une crise en Iran, en fait, on va invoquer tous les biais qu'on utilise contre les Arabes. Ce qui est problématique, parce que là, c'est deux cultures totalement différentes. Et ce qui est surprenant, c'est que Covering Islam d'Edward Said a été publié en 1981, pendant la crise des otages américains en Iran. Et lorsque je lis un peu ce qui se disait à cette période-là, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes biais. C'est-à-dire que 40 ans plus tard, nous sommes encore au même stade. Et l'idée, c'est de tous, sauf être précis, d'identifier de quoi on parle. Mais c'est encore une fois d'utiliser des concepts attrape-tout qui font le buzz, qui font peur. Le monde des mollahs ou la république des mollahs ou même maintenant les mollahs dans
Il
un souci de...
Il n'en demeure pas moins que les mollahs ou des mollahs, parce que l'article « les » est toujours problématique. Il y a un ayatollah Sistani en Irak qui n'a rien à voir dans sa comparaison avec les mollahs ou les ayatollahs. Mais certains se comporte mal en idéologisant la tradition religieuse islamique et en qualifiant leur république d'islamique.
Exactement. Dans le cas de l'Iran, en plus, dernièrement dans les débats, les gens ont oublié que, tout de même, vous avez eu quand même 13 millions d'Iraniens qui ont voté pour un candidat Jalili, qui était ultra-islamiste. Et or, dans le débat, vous avez des gens qui vous disent « Ben non, en fait, c'est aujourd'hui une réaction contre l'islam. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une révolution contre l'islam ou c'est une révolte contre l'islam. » Je veux dire, c'est pas sérieux. On peut critiquer le régime, critiquer son idéologie, mais ça n'empêche pas que lorsqu'on parle du monde musulman, on doit quand même être un minimum sérieux et précis. Et c'est ce qui me surprend parfois dans le débat autour du monde musulman. C'est-à-dire que, puisqu'on parle de cette ère un peu barbare, la rigueur est mise de côté. Et il y a une sorte de désinvolture lorsqu'on approche ce monde-là. Et lorsque je compare les débats qu'il y avait à la période d'Edward Said, donc en 1981, la mise sur orbite de ces experts-là, on la refait aujourd'hui. Et encore une fois, on n'est pas dans un souci de compréhension, mais je pense qu'on est dans un souci de domination.
Ou du moins, il y a cette idée que, sans aucune rigueur objective, scientifique, d'aucuns nous disent qu'il y a une incompatibilité irréductible entre les valeurs occidentales, entre la et l'islam, la démocratie, la modernité sont irréconciliables avec l'islam, mais sans définir la modernité. S'agit-il de la modernité politique, intellectuelle, la modernité technique? Que je sache, la Singapour est dirigée par une femme et les musulmans de Singapour sont très à l'aise avec leur dirigeante. Et des musulmans vivant un peu partout de par le monde. Il y a ceux qui subissent, c'est vrai, un manque d'une gouvernance juste, manque d'éducation, la non-équitable répartition des richesses, des difficultés réelles sur le plan économique, manque de liberté. Est-ce inhérent, intrinsèque, organique, structurel, propre à leur tradition religieuse ou à des considérations extrinsèques dues à l'autoritarisme, à la dictature, au despotisme? Alors d'aucuns franchissent le pas en disant non, parce que le Coran y est incréé. Or, l'incréation du Coran est une construction humaine.
Chaque problème qui est lié au monde musulman, on va l'approcher avec une approche culturaliste. Et on va mettre de côté les questions qui sont d'ordre politique, économique ou sociaux. Vous parlez de Singapour, moi je pense, parce que j'ai vécu dans le Golfe, je pense à la capitale golfiote dans laquelle j'ai vécu, donc à Doha ou à Abu Dhabi. Ce sont des villes extrêmement modernes qui ont intégré les nouvelles technologies. On parle aujourd'hui de villes intelligentes. C'est des hubs internationaux, le monde entier y est. Et ils ont gardé une conception de l'islam. J'ai utilisé le mot rigoriste.
Conservatrice,
sans forcément vouloir donner une coloration négative. Mais tout en étant économiquement et politiquement extrêmement moderne. Et ce qui me surprend avec les personnages que nous avons cités, ces experts du monde musulman, je sens et je vois qu'ils comprennent de moins en moins le monde extérieur. Et c'est ma crainte aujourd'hui, c'est qu'il y a un risque de provincialisation d'une partie des élites. Parce que le monde qui naît, qui est là, n'acceptent pas peut-être leur monopole culturel. Et je pense qu'ils refusent cette évolution-là. D'où l'utilisation, on va dire, de concept attrape-tout. Parce que c'est comme un mythe. Moi, ça m'intéressait lorsque Lévi-Strauss expliquait pourquoi les gens utilisaient les mythes. Souvent, lorsque on a différents problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, on va utiliser un mythe qui va permettre de répondre à tous ces problèmes-là avec un seul même concept. Et je crois que c'est l'un des objectifs d'utilisation du mot islamisme, c'est que toutes ces évolutions-là, tous ces problèmes-là, en fait, il n'y a qu'un problème, c'est la menace de l'islamisme contre la modernité.
Peut-être que dans l'esprit de cela, il ne suffit pas d'une modernité technique, d'intelligence artificielle et ces hubs internationaux. Il faut aussi, dans leur esprit, j'imagine, et dans certains cas, à juste raison, il faut une véritable liberté, liberté d'expression, liberté de conscience, liberté religieuse, ouverture sur autrui, l'égalité foncière, fondamentale, ontologique entre les êtres humains, par-delà le genre, par-delà l'appartenance confessionnelle, etc. Et peut-être qu'on n'y est pas encore arrivé dans cette ère-là à IRE. La question est-ce momentané, et puis ça se réglera, J'ai cru comprendre que même un Salman Rushdie reste optimiste en disant « je ne le verrai peut-être pas de mes yeux, mais ce n'est pas à jamais qu'il faut désespérer de cette modernisation au sens intellectuel et au sens politique ». Mais d'autres diront que c'est intrinsèquement incompatible et donc c'est une guerre sans fin.
Je crois à l'optimisme de la volonté et le pessimisme de l'intelligence, comme dirait Gramsci. Mais plus sincèrement, ce que je disais à ces personnes qui ne cessaient de défendre cette incompatibilité-là, je leur dis finalement, vous êtes, sans le savoir et sans le vouloir, vous êtes les alliés objectifs des extrémistes. Parce qu'en fait, les extrémistes, ils viennent nous voir en nous disant exactement la même chose. C'est que ce sont deux corps distincts, vous ne pouvez pas les mélanger, le monde arabe ou le monde musulman et la culture européenne. Et ce que je disais à ce jeune homme, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu es leur allié objectif.
Et même la lecture qu'il fait, il prend uniquement et exclusivement la lecture fondamentaliste.
Exactement.
Soit par myopie intellectuelle, ou par ignorance, voire dans certains cas une véritable méconnaissance, et on ne prend de tout ce qui concerne une civilisation et une religion que la lecture fondamentaliste et rigoriste.
Lui, il utilisait, comme diraient les anglo-saxons, son background culturel, donc il serait né dans une famille musulmane, pour un peu tenter de neutraliser la critique qui va arriver. Un, ça ne suffit pas. Deux, je crois que il n'y a rien de pire que le déracinement culturel et intellectuel. Mais il y a cette figure de toujours présente depuis bien longtemps, malheureusement, du native informant. Il invoque son appartenance à cette ère-là pour mieux la critiquer, pensant pouvoir neutraliser les critiques qui viendraient pointer du doigt les stéréotypes et parfois le colonialisme qu'il y a derrière. Et ce que je lui répondais, c'est que ça ne suffit pas. Vous pouvez être de culture musulmane et reproduire des biais. D'ailleurs, c'est ce que vous faites. Et c'est encore pire, d'ailleurs, parce que vous invoquez cela.
Oui, des cas près. Il y a des précédents dans l'histoire. Et puis, il ne sera pas le dernier. Si c'est ce jeune homme dont nous parlons. Il y a eu Taslima Nasrin, il y a eu Ayanirsi Ali. Parfois, ce sont les individus les plus aigris, les plus... Peut-être pour des raisons personnelles, des blessures, des traumatismes, et dans certains cas, certains opportunismes aussi. Alors que le plus important, c'est, surtout quand il y a des crises, il y a des débats, il faut de la retenue, de la froideur d'esprit, de la distanciation, de la connaissance et de savoir de quoi on parle au juste.
Mais l'espace médiatique actuel... encore une fois, favorise ce type, le jeu algorithmique, on va dire, favorise ce type de discours, parce que l'idée, c'est de polariser, de confronter, de jouer avec la peur et la colère, parce que c'est ça qui va ramener de l'audience. Quelqu'un qui va vous donner des chiffres, qui va vous expliquer l'histoire du discours orientaliste. Visiblement, ça n'intéresse pas. Mais ce qui me surprend, c'est le caractère irresponsable de tout cela. Parce que cette production de biais, de discours, de division, ça a des conséquences politiques. Surtout dans un monde qui se reconfigure, ou dans un monde, entre guillemets, qui va se désoccidentaliser. Il y a des peuples... il y a quelque temps, j'ai échangé avec... la numéro 2 à l'ONU, qui vient du Nigeria, c'est une femme qui est attachée à sa tradition musulmane et qui, lorsqu'elle entre à l'ONU, elle va parler de valeurs qui sont la famille. Elle dit « I report to God », je rends compte à Dieu. Voilà des personnes qui, aujourd'hui, vont représenter des institutions internationales et ils n'acceptent pas, en fait, ce type de discours. Le Monde n'est pas, je ne sais quel magazine, l'Express ou Le Point. Ou...
Oui, Il y a deux choses, c'est que malheureusement, les institutions internationales et le droit international sont très à mal maintenant, et on a peut-être même porté le dernier clou au cercueil du droit international avec une diplomatie infantile que nous connaissons. Et il y a aussi peut-être que la sécularisation de nos sociétés occidentales font en sorte qu'on ne reporte plus à Dieu, pour parler comme cette responsable onusienne.
Oui, le dernier livre d'Olivier Roy était intéressant parce qu'il parlait de cette crise de la culture. Je crois qu'il reprenait l'un des titres de Hannah Arendt. Et en parlant de l'aplatissement du monde, je crois que l'un des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est justement ce déracinement culturel, cette incapacité à comprendre le fait religieux.
Enfin, dans sa sainte ignorance, la religion sans la culture.
Exactement, exactement. Et on arrive à des cas où certains me disaient, il y a quelque temps, on ne sait plus enterrer ces morts. Mais dans le débat actuel, je crois que c'est surtout ça. On est dans la confrontation des identités, souvent blessées. Mais il y a très peu de spirituel dans tout ça. Très peu de spirituel dans tout ça.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec le juriste Chad El Nawaftaqa, nous parlons de violence épistémique, de non-maîtrise du champ sémantique, de projection d'idées toutes faites, de stéréotypes, de clichés, et tout cela ajoute au malaise. Malaise dans la civilisation, malaise dans la République, s'il s'agit de la nôtre en France. Chad El Nawaftaqa est conseiller à l'UNESCO. Et pour cette dernière partie, si on revient à la France et même au monde occidental, la difficulté de cette présentation des choses, c'est qu'elle ne tient pas compte des citoyens musulmans qui vaquent à leurs occupations en grand nombre, et qui sont confrontés à ces difficultés concernant leur propre tradition, mais leur allégeance et leur loyauté à la patrie, à la nation, n'a même pas besoin d'être mise en avant parce qu'elle est naturelle.
Elle est naturelle et tous les chiffres, toutes les études le montrent. Emmanuel Todd rappelait il y a quelque temps que parmi les pays européens, la France a le taux le plus élevé en termes de mariage interethnique. Et il disait, donc, cela montre que finalement le système français marche, puisque les gens se mélangent, se marient entre eux. Et je crois que dans le cas du monde musulman, justement, l'hystérisation du débat, elle masque finalement la réussite des musulmans en France. J'écoutais un chercheur, M. Ben Aïssak, il y a quelque temps, discuter du problème du voile dans les entreprises. Et il racontait une anecdote très intéressante, je trouve. Il disait qu'il a été appelé pour régler ses questions liées à la laïcité à l'entreprise. Il disait, je suis monté au cinquième ou sixième étage de l'entreprise, et donc il y avait cette cadre qui portait le hijab, et on discutait du problème. Et en descendant, j'ai trouvé une femme de ménage qui portait également le hijab, qui travaillait, lui a posé la question, ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette entreprise? Elle m'a dit, ça fait 20 ans. Et visiblement, ça posait pas de problème lorsqu'elle était au rez-de-chaussée. Mais le port du hijab et la présence d'islam posaient problème peut-être lorsque on est monté de manière symbolique au 5e, 6e étage. C'est peut-être la visibilité du fait religieux dans certains cercles qui pose problème.
Mais il y a une perception particulière concernant le voile, parce que, y compris dans les contrées islamiques ou les sociétés à majorité musulmane, ce n'était plus une affaire, c'était réglé et c'est revenu justement avec à la fois le wahhabisme et la révolution de Khomeini. Et c'est devenu particulièrement en Occident et surtout en France comme une régression tragique quant aux libertés des femmes, etc. Et ça, c'est perçu. Faut tenir compte de la psyché collective française.
De la perception. Tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense qu'on peut discuter du sujet sans,
parce que sans tous les hystérisations.
Sans hystérisation. Parce que aussi bien les régimes comme ceux de Khomeini que les laïcs, ils vont donner parfois, je pense, une coloration politique à un phénomène qui n'est pas forcément dans le sens politique de prise de pouvoir. Il peut exprimer peut-être quelque chose de l'ordre de l'identitaire ou du rejet ou une réaction, une volonté de s'affirmer, de se montrer. L'hystérisation avec laquelle on peut parfois approcher le sujet me frappe, et je crois que c'est même contre-productif. C'est ce qui s'est passé avec le niqab. C'est-à-dire, en parlant haut et fort d'un épiphénomène, en fait, on n'a fait que de...
Dans une approche dite positive ou favorable, optimiste, on dira, et j'invoque et je convoque le fameux sondage qui a été commandité par une officine particulière. Et on ne l'a pas mis suffisamment en avant. Les femmes qui s'étaient voilées au début des années 2000 commencent à se dévoiler maintenant. Et il reste une difficulté réelle avec des jeunes demoiselles qui, pour la plupart d'entre elles, pour des considérations à la fois identitaires, de provocation, le plus souvent pas pour des considérations religieuses, tiennent mordicus à leur voile. Et donc, on pense qu'elles finiront par laisser tomber ce qui apparaît comme un étendard.
Et là, le problème, c'est que lorsqu'on rattache, par exemple, le voile à l'islamisme par excellence, on arrive parfois à des contradictions. C'est-à-dire que l'officine en question, selon la presse, elle est liée. Donc cette officine combat l'islamisme et donc elle parle du voile. Et on dit qu'elle serait liée à un État en particulier, un État arabe en particulier. Moi, je suis allé dans cet État en particulier et toutes les femmes portent le voile. Pourtant, c'est un État qui criminalise les frères musulmans. Et donc moi, je serais intéressé, en fait, pour poser la question à cette officine-là, c'est que, en fait, comment vous délimitez tout ça? Comment vous expliquez tout ça?
Peut-être le fait de vouloir que les filles et les femmes portent le voile en Occident et en France et pas chez eux.
Peut-être.
Enfin, dans cette lecture.
Peut-être. Mais encore une fois, je pense que le problème de ce concept d'islamisme, c'est que puisqu'il n'est pas identifié, il devient un peu mouvant. Mmh. Et il change au gré. Et puis maintenant, on va mettre aussi la question de la gauche. Donc on va parler des islamo-gauchistes.
Alors une des définitions, et celle de Hawass Seniger est juste, c'est celle de l'idéologisation exacerbée des préceptes religieux islamiques pour des considérations politiques serait l'islamisme. Et il y a une autre difficulté, notre entretien porte justement sur le champ sémantique, c'est le fameux préfixe islamo à coller à n'importe quoi. Moi, j'ai vu des tags où c'est écrit islamo-collabo, islamo-nazi, islamo-fasciste, islamo-délinquant, islamo-wokiste, islamo-gauchiste, bien entendu.
Et puisque la création sémantique est infinie, j'ai rencontré et j'ai vu dans la presse des gens qui parlent de manière très sérieuse, et ça semble être très scientifique, très objectif, d'islamo-droitard. Donc il y aura une islamo, des islamo de droite ou des islamo-droitards. Et encore une fois, ce qui me surprend, c'est, et ce qui me frappe, c'est avec quelle légèreté on parle quand même de plusieurs pays, plusieurs cultures. Et encore une fois, ces responsables politiques ou médiatiques n'ont aucune idée des conséquences que ça a apporté sur l'image de leur pays. Parce que lorsque vous êtes un homme politique, lorsque vous êtes un journaliste, dans le monde dans lequel on est, où les frontières n'ont plus la même place qu'hier, votre discours va être traduit par l'intelligence artificielle, va dans plusieurs langues, ça va atteindre des contrées très lointaines, et donc il faut avoir, je pense, un minimum de responsabilité. Parce que demain, quand vous allez sortir du 7e arrondissement et que vous allez voir le monde, les gens vont vous rappeler cela. Et c'est très dommageable parce que vous venez d'un pays qui a une place très importante dans l'histoire des idées, que les gens attendent, que les gens regardent. Il est vu comme la patrie, non simplement des droits de l'homme, mais de la liberté, de la justice, du goût, de l'esthétique. Et donc je pense qu'il faut, il y a des standards à respecter, vous avez une certaine responsabilité.
À commencer par la rigueur intellectuelle et la maîtrise du champ sémantique.
Surtout que vous venez d'un pays de grand orientaliste au sens noble du terme, c'est-à-dire des scientifiques. Vous êtes le pays de Louis Massignon, de...
Oui. Alors Louis Massignon, parce qu'on passe de l'orientalisme islamisant savant à ce qu'on appelle désormais l'islamologie, parce que l'orientalisme dépasse ce qui concerne l'islam, effectivement. Pour revenir à la rigueur du champ sémantique, et pour prendre uniquement l'exemple de l'islamo-gauchisme qui est débité à n'importe quelle condition, parce que dans l'esprit de certains, c'est la collusion entre certaines thèses gauchistes avec l'islamisme. Ben dans ce cas, on devrait, en principe, à supposer qu'il faille le faire, parler de gaucho-islamisme ou d'islamismo-gauchisme. Mais je ne vois pas pourquoi on utilise le préfixe islamo. Parce qu'islamo, ça renvoie à la fois à la religion et à la civilisation. Cela même voudrait distinguer l'islam de l'islamisme, mais ils prennent le préfixe islamo qui renvoie à l'islam, pas à l'islamisme.
Parce que ça renvoie, je pense, à l'idée d'un corps étranger qui vient... donc il y a quand même une certaine théorie conspirationniste derrière tout ça. Donc il y aura un corps étranger qui vient prendre en otage un segment politique national qu'il utilisera à des fins
étrangères. Et la solution, c'est la confrontation jusqu'à la conflagration généralisée. J'ai lu même des titres de « guerre sans fin » ou le fait de mettre un peu de bon sens et investir dans l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir. rendre réelle la triade républicaine si l'égalité et la liberté relèvent du légal et du juridique, la fraternité, c'est plus un engagement et un sentiment. Tout ça nécessite de l'éducation dans les familles, l'instruction dans les écoles. C'est ce qu'il faut faire ou rester uniquement dans des constats tels que ce que nous sommes en train de faire?
Les jeunes français de confession musulmane ont trouvé une troisième voie. Certains, que je trouve encore plus intéressante, utilisent le rire. L'humour. Et vous savez, depuis l'Antiquité, l'humour, c'est quelque chose qui parfois fait peur, même aux plus puissants. Parce que ça a une capacité, en fait, de montrer le ridicule de toute cette mise en scène. Et c'est pour ça que j'ai trouvé les humoristes très utiles de ce point de vue-là. Il y a un sketch qui est devenu très célèbre, qui reprend encore un islamologue, un imam, qu'on invite souvent dans les plateaux télé. Et ils ont pu, comme ça, montrer les limites et les contradictions, et finalement le peu de sérieux de ces personnages, tout simplement avec l'humour. Je pense que l'humour a une...
Sur une plateforme télévisée bien connue.
Exactement, tout le monde comprendra.
Bien, nous arrivons au terme de l'émission. Merci infiniment, cher Shad El Nawaftara, d'être venu au moins parler de ces difficultés, de cette violence épistémique, de la non-maîtrise du champ sémantique. On ne sait pas ce dont on parle, ce qui peut-être explique le fait que la crise demeure alors qu'on devrait tout faire et conjuguer les efforts pour pouvoir en sortir par le haut. Alors vous avez évoqué une des voies, c'est celle de l'humour, qu'on pourrait ajouter effectivement à celle de la connaissance, de la science et d'agir en conscience. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam, que vous retrouverez comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture, et vous pourrez la podcaster, la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Sébastien Royer et la réalisation par l'ami François Collin. Thank you.